Le défenseur des droits d'Occitanie veille au respect des droits et des libertés. Il présente le bilan de notre région ce matin.
Le défenseur des droits s'inquiète d'une banalisation des atteintes aux droits et aux libertés au niveau national. Un nombre de plus en plus important de réclamations, de l'ordre de 12%, lui sont en effet adressées. Nous en parlons ce matin avec Romain Blanchard, le chef de pôle régional Occitanie. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Dans la région Occitanie, plus de 120 permanences sont tenues par les délégués du défenseur des droits. Comment expliquez-vous cette augmentation de 12% des recours ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui nous permettent d'expliquer cette augmentation. D'abord, le premier, peut-être, et je l'espère, parce que le défenseur des droits est de plus en plus connu et identifié comme une voie de recours efficace par toutes les personnes qui ont des difficultés à faire valoir leurs droits. Et deuxième élément, je dirais aussi, sans doute, parce que nous développons depuis plusieurs années une stratégie d'aller vers ces publics les plus vulnérables, les plus éloignés du droit. Vous parliez à l'instant de ces fameuses permanences, enfin points d'accueil, il y en a plus de 120, 128 exactement dans la région Occitanie. En tout, c'est près de 40 qui ont été créés ces trois dernières années, on en a créé 12 en 2023, et dans l'objectif vraiment d'aller vers celles et ceux qui ont peu de services publics à proximité. Donc on a créé des permanences dans des zones rurales, en allant dans les établissements France Service, mais aussi dans des quartiers politiques de la ville. Et donc je pense que cette accessibilité fait que nous sommes de plus en plus aussi saisis.
Alors, il y a eu 92 400 réclamations, informations et orientations reçues par le défenseur des droits. Juste pour l'Occitanie, hein, en 2023, que révèle ce chiffre ? Est-ce que ça veut dire que finalement, les pouvoirs publics ne fonctionnent pas bien ?
Alors, ce qu'on constate dans les saisines qui nous sont adressées et qui sont traitées par les délégués, c'est que effectivement, le premier champ de saisine, c'est sur des dysfonctionnements des services publics. Donc effectivement, ça peut nous interroger. Lorsqu'on va un peu plus dans le détail de ces saisines en matière de services publics, on voit que les trois premiers items thématiques, je dirais, sur lesquels on est saisi, sont en premier lieu la protection sociale, en deuxième lieu, le droit des étrangers, et en troisième lieu, le droit routier. En protection sociale, sur quoi nous sommes saisis ? On est saisis sur différents litiges avec des organismes sociaux. Je pense par exemple aux caisses de retraite, aux caisses d'allocation familiale, aux caisses primaires d'assurance maladie ou encore à Pôle emploi. Et là, les saisines sont diverses. On est beaucoup interpellés par des personnes qui nous disent « j'ai déposé un dossier, je n'ai pas de réponse, malgré les relances que je peux faire ». Un exemple qui me vient en tête, c'est un exemple, mais il est récurrent dans les saisines qui nous remontent. Typiquement, c'est une personne qui se retrouve veuve, qui a perdu son mari, qui fait une demande de pension de réversion à sa caisse de retraite et qui, plusieurs mois après, malgré ses relances, n'a pas de réponse et ne touche pas sa pension de réversion. Et là, dernièrement, un délégué de l'Ariège, le dossier auquel je pense, est intervenu au soutien de cette dame et elle a pu, 2 semaines après l'intervention du délégué, percevoir sa pension de réversion qu'elle attendait depuis plus d'un an. Donc, vous voyez des délais qui sont très très longs, mais aussi des difficultés pour accéder même aux services publics. Et là, je pense au deuxième item, en droit des étrangers, où on voit que ce motif ne cesse d'augmenter. C'est devenu le premier motif de saisine au niveau national. Ce n'est pas encore le cas en Occitanie, c'est toujours le deuxième, mais ça pourrait le devenir dans les années à venir. D'ailleurs, il est déjà premier motif de saisine dans le Gard. Et là, les étrangers nous saisissent, non pas parce qu'ils sont mécontents de la décision que prend l'autorité préfectorale, mais simplement parce qu'ils n'arrivent pas à déposer leur dossier, que ce soit en préfecture ou en ligne. Et là, un des délégués du Gard, hein, a été saisi par un monsieur. Et l'exemple est frappant. Et c'est pour ça que je vous le donne, qui vit en France depuis 1980. Vous voyez, il n'est pas arrivé hier. Hein. Depuis de nombreuses années, il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui renouvelle régulièrement. Et il a fait une demande de renouvellement à l'échéance de sa dernière en mai 2022. En mai 2022, il se voit délivrer un récépissé en attendant que la nouvelle carte lui soit délivrée. Plusieurs récépissés jusqu'à fin d'année 2022. Et puis soudainement, plus rien. plus de récépissé. Et donc, il bascule en situation irrégulière.
Oui.
Et c'est à ce moment-là qu'il vient voir le délégué du défenseur des droits du Gard, qui a fait des démarches auprès de la préfecture. Il a pu obtenir un récépissé, puis ensuite une carte de séjour pluriannuelle. Mais il aura fallu attendre 7 mois entre l'intervention du délégué et le fait qu'il revienne en situation régulière. Et pendant 7 mois, ça a été désastreux pour lui, parce qu'il a perdu son travail, il a perdu ses APL, et donc il s'est retrouvé dans une situation particulièrement dramatique. Et c'est le cas des milliers d'étrangers en France, et c'est ce qu'on constate.
Est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi il y a ce genre de dysfonctionnement ?
Alors, un des éléments que l'on avance hein, et que l'on pointe, que la défense des droits pointe régulièrement, ce sont les conséquences de la dématérialisation, de ce que nous, on a appelé aussi un peu l'évanescence des services publics, ce recul de la présence humaine au guichet. Notre position quant à la dématérialisation, elle est très claire. C'est qu'on a de cesse de rappeler que la dématérialisation, c'est super. C'est une chance. Moi, le premier, je suis très content.
Mais c'est un gain de
mais
temps.
Absolument. Oui. Je suis très content de m'éviter d'avoir à faire la file au guichet d'une administration, de pouvoir faire mes démarches en ligne. C'est formidable. Mais ce que l'on dit, c'est que oui, bien sûr, il faut dématérialiser, mais il faut aussi maintenir des canaux alternatifs.
Avec une présence humaine.
Exactement, avec une présence humaine. À minima, un téléphone joignable. Et on sait que nos services publics en France sont difficilement joignables. On a fait une enquête l'année dernière encore, en partenariat avec l'INC, l'Institut National de la Consommation. Les résultats étaient catastrophiques. On voyait que, grâce à ces enquêtes, on n'arrivait pas à joindre les services publics. On n'arrivait même pas à avoir une réponse, en fait. C'est-à-dire, on raccrochait au bout de 15 minutes et on n'avait personne. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut maintenir des canaux alternatifs. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Une décision du Conseil d'État, c'est pas n'importe qui, a dit aussi que la dématérialisation ne pouvait pas se faire sans accompagnement.
Elle ne répond
pas à toute la situation. Absolument.
Ouais. Ouais, ouais. Alors, pour la Haute-Garonne, il y a eu 92% de réclamations qui ont eu trait aux services publics.
Ouais.
95% pour l'Ariège, 97% pour l'Aveyron, je ne vais pas toutes les citer. Que ce soit à cause de délais trop longs, vous le citiez pour obtenir une pension de réversion, ou pour il y a aussi cet exemple dans votre bilan, un apprenti qui n'a pas pu bénéficier d'une aide au logement malgré tous les papiers et tout ce qu'il avait justement donné dans ce site. C'était la caisse d'allocation familiale. Ouais. Donc le défenseur des droits est intervenu. Et finalement, comment il est intervenu ? Qu'est-ce qui a été son plus ?
Notre spécificité dans la façon dont on intervient, c'est que les délégués interviennent par la voie de la médiation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en médiation ? On rétablit un dialogue, on remet l'humain au centre. Et la chance que nous avons aux défenseurs des droits, c'est que nous sommes une institution de la République, inscrite dans la Constitution, ce qui nous confère d'une certaine façon, je dirais, une écoute peut-être un peu plus attentive de la part des pouvoirs publics lorsqu'on alerte, lorsqu'on interpelle sur une situation particulière. Et donc, grâce à ces médiations, et d'ailleurs, merci pour cette question, parce que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que dans la région Occitanie, lorsque les délégués engagent des médiations, dans près de 80% des cas, 77% exactement, ces médiations aboutissent à un règlement amiable de la situation. Donc on arrive à résoudre ces litiges par la voie de la médiation, et c'est ce que nous demandent d'ailleurs aussi les personnes qui nous saisissent. Elles veulent pas forcément s'engager dans des actions contentieuses devant la justice.
Qui seraient longues et coûteuses.
Absolument, c'est long, c'est coûteux, il y a un aléa judiciaire qui est très très important, et donc par la voie de la médiation, on arrive à dénouer ces litiges de façon rapide et pragmatique.
Vous dites qu'il y a 77% de résolutions positives, ça veut dire qu'il en reste quand même une grosse trentaine de pourcents qui ne fonctionnent pas. À quoi c'est dû ces échecs, entre guillemets ?
Alors, il y a plusieurs éléments. Hein. Le premier, c'est qu'une médiation ne peut pas être engagée à marche forcée. Le principe même d'une médiation, c'est que ça repose sur un accord de volonté des parties, donc de la personne qui nous saisit, mais aussi de l'organisme ou de la personne qui est mise en cause. Donc, si la personne ne veut pas s'engager dans une médiation, on ne peut pas l'y contraindre. Pour autant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas parce qu'il reste un faible pourcentage de médiations qui n'aboutissent pas que le dossier est clos et que c'est terminé pour nous. C'est que le dossier, dans ces cas-là, peut être transféré au siège, aux services centraux du défenseur des droits à Paris, qui peuvent prendre le relais et qui, eux, là, à cette étape-là du dossier, peuvent mobiliser ce que nous, on appelle des pouvoirs d'enquête, puisque la loi nous confère des pouvoirs d'enquête, d'investigation, à l'instar de la police ou de la gendarmerie. Hein, on peut demander des pièces pièce, on peut convoquer les gens pour des auditions, on peut se rendre sur place pour enquêter, ça donne lieu à l'établissement de procès-verbaux qui ensuite peuvent être présentés dans le cadre d'une action contentieuse. Donc c'est pas parce qu'une médiation échoue que derrière on ne fait rien, au contraire on continue, et c'est ça la force de cette institution, à la fois d'avoir ce réseau de délégués bénévoles médiateurs localement, mais aussi des juristes très compétents au siège à Paris.
Alors vous êtes intervenu cette année aussi dans le projet de fermeture d'une classe de maternelle en milieu rural, et c'est un sujet qu'on n'imagine pas forcément avec une intervention du défenseur des droits. Est-ce que vous pourriez nous l'illustrer?
Ben, c'est vrai que lorsqu'on pense, parle défenseur des droits, on parle beaucoup de litiges entre des usagers, du coup adultes, et les services publics, mais le défenseur des droits est aussi compétent s'agissant de la défense des droits des enfants, de leur intérêt supérieur, et donc à ce titre, on peut être saisi de différents litiges, en premier lieu de la scolarisation, parce que c'est là où passent beaucoup de temps les enfants, donc on peut être saisi effectivement sur des cas de fermeture de classe. Ces cas sont assez rares quand même, je tiens à le dire. Par contre, ce sur quoi nous sommes beaucoup saisis, c'est sur refus d'inscription à l'école par certains maires essentiellement. On peut être saisi sur les conditions de scolarisation de certains enfants.
Pour quelles raisons ?
Notamment des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont reconnus en situation de handicap, et c'est tant mieux. Les maisons départementales des droits des personnes handicapées, les MDPH, reconnaissent le handicap et notifient notamment des aides humaines pour ces enfants, qu'on appelle les AESH.
Oui.
Problème s'agissant des AESH, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Je dis elles parce que ce sont essentiellement des femmes, pas nombreuses parce que c'est un métier qui est très précarisé et peu rémunérateur.
Peu reconnu également.
Et donc ces enfants devraient être normalement accompagnés par une AESH, mais ne le sont pas. Et du coup, la communauté éducative, l'éducation nationale, refuse parfois de scolariser ses enfants tant qu'il n'y a pas l'AESH pour accompagner l'enfant. Et donc, il y a des enfants en situation de handicap qui devraient aller à l'école, c'est leur droit d'aller à l'école, mais qui ne peuvent pas aller à l'école.
Et est-ce que l'intervention du défenseur des droits, Romain Blanchard, va justement permettre d'embaucher une AESH dans ce cas-là ?
Alors,
parce qu'on ne peut pas forcer l'école à accueillir l'enfant en situation de handicap s'il n'y a pas cette aide.
Absolument, on comprend la nécessité d'avoir cette aide parce que un enseignant qui a 5 enfants en situation de handicap dans sa classe ne peut pas gérer à lui seul ou à elle toute seule tous les enfants avec leurs particularités les uns les autres. Donc il y a besoin de ces aides-là. Mais justement aussi la force de notre institution, c'est que grâce à ces saisines que l'on reçoit, on se fait le porte-parole de toutes les personnes, on alerte les pouvoirs publics et on a produit justement un rapport sur la scolarisation des enfants en situation de handicap et justement où on a pointé du doigt le manque d'AESH, le besoin de reconnaissance de ce métier et aussi d'une plus grande rémunération pour attirer davantage de personnes.
Pour terminer, Romain Blanchard, est-ce que vous pouvez juste nous dire comment on peut saisir ce défenseur des droits ?
Absolument. Alors la saisine du défenseur des droits, elle est très facile. Déjà, je dirais qu'elle est gratuite. Il y a plusieurs moyens pour saisir le défenseur des droits. Le premier, c'est par courrier, si vous aimez encore écrire, et on tient à maintenir cette voie-là. Hein. La deuxième, c'est par Internet, qui est aujourd'hui quand même le canal le plus utilisé par les personnes qui nous saisissent. Donc, vous allez sur le site du défenseur des droits, www.défenseurdroits.fr, vous remplissez un formulaire de saisine en ligne. Et enfin, la troisième modalité de saisine, celle dont on est très fier, c'est par l'un des 600 délégués du défenseur des droits. Donc, vous avez forcément un délégué du défenseur des droits près de chez vous. Vous allez sur notre site internet, vous regardez où sont ces délégués et vous pouvez prendre rendez-vous pour aller rencontrer ce délégué, lui exposer votre problème. Ce délégué vous écoutera, vous informera sur vos droits, vous orientera et vous aidera à les faire valoir en cas de besoin.
Voilà, et c'est effectivement une solution qui peut aboutir, vous l'avez dit, à 77% des cas. Donc il ne faut pas hésiter
à
saisir et à contacter son défenseur des droits de son département. Merci beaucoup Romain Blanchard d'être venu ce matin.
Merci
nous présenter en tout cas tout ce bilan du défenseur des droits d'Occitanie. Et puis je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée.